Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. Bienvenue dans l'épisode 70 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler de coexister parce que c'est important de vivre en harmonie avec toutes les autres religions. Sauf quand on est athée, en général on a du mal hein, parce que on ne croit pas en la magie. Aujourd'hui on va parler du film de Fabrice Eboué, Coexister, où un imam, un rabbin et un prêtre veulent chanter et remplir l'Olympia. On a également rapidement parlé de Kingsman 2, de La Confession et aussi du scandale au Weinstein dans les news. Aujourd'hui Jean-Yves Rabaud et Ludovic Maninck. Et là, au fait, au micro, c'est Areski Sugar. Autopromo, of course, je suis en spectacle les vendredis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre au Centre Culturel des Minimes à Toulouse. N'hésitez pas à cliquer sur le lien Bireduc pour réserver une place. J'y serai avec Emma pour 30 minutes de stand-up chacun. Venez vous régaler, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, l'épisode suivant, ce sera un oldies but goodies sur Blade Runner. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison avec l'épisode précédent sur Blade Runner 2049. Je vous embête pas plus longtemps et je vous fais des gros bisous et bon épisode.
Oh, le gars est fatigué. Bon. Toi, t'as fait la fête, ça se voit. Le gars a veillé, un truc de malade.
Carrément.
Oh, le gars.
On est obligé de parler de la news qui fait le gros séisme de tout le cinéma.
Quelle
mondial.
News Quoi, il se passe quoi?
Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
C'est comme quoi Harvey Weinstein touche des gens, quoi.
Oh non, ça va pas.
Viol.
Pas lui, je le connais pas lui, quoi.
Harcèlement sexuel, viol, tout, quoi. Tout, la totale. Harvey Weinstein, moi je le connaissais, enfin je connaissais un peu son
mode opératoire.
Sa personnalité un peu déviante, mais surtout concernant la violence, parce que il y avait énormément de rumeurs comme quoi c'était le mec qui négociait ses contrats avec des battes de baseball à côté de son bureau, etc. Je savais pas, par contre, c'est la première fois que j'entends toutes ces rumeurs concernant. Le fait qu'il soit un prédateur sexuel, mais j'ai envie de dire ça va très bien avec le reste du personnage, quoi.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Dans Entourage, ils se foutent de la gueule de Harvey Weinstein. Tu sais, ils avaient créé un perso qui s'appelait Harvey quelque chose d'ailleurs, et ils en ont fait un gros dégueulasse également.
McFarlane aussi, il a dit plusieurs fois McFarlane sur dans des interviews comme ça, ou même en présentation des émis, je crois, il balance un truc sur Einstein en disant ouais non mais.
Ouais.
Comme lui, quoi, en fait.
Ouais, en gros, c'est un secret de polichinelle un peu à Hollywood, mais...
En fait, ce qui est assez ouf, c'est l'ampleur du truc, et dans la mesure où le gars est vraiment... il est tellement impliqué, même au niveau politique, que... Genre, le gars, c'est le donateur principal du Parti démocrate, le gars, c'est la machine à Oscar et tout, et c'était ça un petit peu son... C'était un peu sa stratégie, quoi. C'est-à-dire que il voyait arriver des filles, en gros, il leur disait, si tu veux gagner des Oscars, il n'y a pas d'autre solution. Et malheureusement, c'est le dark side du pouvoir, quoi. C'est-à-dire que le gars a compris qu'il avait ce pouvoir qui lui permettait d'abuser de gens. C'est horrible, quoi.
Ouais, parce que c'est ça le maître mot, c'est le pouvoir. Le gars avait la main mise sur tout.
Ouais.
Vous y pouvez détruire une carrière si vous voulez. Etc.
Tu veux percer? Bah écoute, viens, je vais te montrer un scénar et autre chose. Et après, vas tourner quoi.
Le pire, c'est quand en fait tu te rends compte que c'est ultra international quand t'entends des gens comme Emma Decaune et tout ça en parler. Tu fais genre, mais le gars.
Ouais, et en plus, il avait vraiment un truc. Et d'ailleurs, je conseille vraiment de regarder. Il y a un C'est dans l'air en replay. Là cette semaine sur le sujet qui est génial avec des historiens USA qui est trop intéressant avec des critiques de cinéma et tout et en fait il parle du modus operandi du gars et c'est-à-dire là où le gars est vraiment une grosse fouine c'est que il disait c'est genre il ramenait les filles dans ses chambres d'hôtel et il disait c'était des trucs du style il connaissait le moment awkward en fait où la fille vraiment il comprenait qu'elle voulait pas vraiment rentrer dans la chambre tu vois et il disait mais non mais le scénario il est dans ma chambre tu vois tu rentres on en discute et tu pars et là où ça devient super vicieux c'est que souvent il avait une assistante avec lui donc c'est là d'où aussi le problème
pour vendre,
pour mettre à l'aise les actrices en fait c'est-à-dire que les filles rentraient. Donc, elle voyait cette assistante en se disant « c'est bon, c'est safe », et il y avait toujours ce moment où l'assistante partait et où la fille se retrouvait seule avec lui. Et là, c'était vraiment... Enfin, c'était pas terminé, mais c'était comme quoi il y avait vraiment...
Il avait des complices, quoi.
Ouais, il avait des complices. Et c'est ça, tout le côté, moi, qui me dérange un peu aussi dans le truc, c'est que il n'y a pas de consensus féministe au sein de cette industrie-là, en sachant qu'il y a plein de femmes qui sont complices de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que on est dans un truc qui est très compliqué, quoi. C'est pas aussi simpliste qu'on ne pourrait le penser, quoi. Tu vois. C'est
surtout le gars a fait taire ça du coup par une omerta de pouvoir pendant des dizaines d'années, quoi. Tu sais que Malia Obama, la fille d'Obama, a fait un stage.
Ouais.
À la Weinstein Company, pour te dire le niveau de pouvoir du gars.
Ouais.
En fait, forcément, du coup, personne ne peut vraiment lui dire non, spécialement quand tu sais, tu gères des multimillions de dollars et puis des égos comme les stars, etc.
C'est ça. Et puis, il va se poser aussi la question du procès, parce que le gars, il est tellement fort au niveau de pouvoir que est-ce qu'ils vont vraiment aller au bout en sachant que on sait ce qui s'est passé avec le truc de Bill Cosby, quoi. Bill Cosby, ce qui est incroyable, c'est que il y a une cinquantaine de filles qui l'ont accusé de viol et tout. Il y a que une fille à l'arrivée qui allait au bout. Et il y a des spécialistes qui sont en train de dire qu'il va certainement se passer la même chose parce que c'est pas pareil que chez nous là-bas. Tu sais, ces gens, le DA, le district attorney, il peut décider d'ouvrir un procès sans pour autant que quelqu'un ait porté plainte, tu vois, il peut décider de dire on y va. Mais le truc, c'est que quand ça au niveau du procès, c'est ce qui s'est passé pour Cosby, c'est que l'argumentaire de défense des avocats, c'est de dire, et il y aura le problème parce qu'il y a des actrices qui, on ne sait pas si vraiment il y a eu, notamment Rose McGowan qui est accusée par certains d'avoir voulu se mettre un petit peu un coup de projecteur au départ par ça, tu sais, et l'argumentaire pour Cosby, c'était de dire, est-ce que vous êtes sûr que cette fille ne ment pas, tu vois?
Ouais.
Et c'est comme ça qu'il s'en était sorti, que l'argumentaire, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne dit pas ça pour...
Oui, parce que s'il y a un doute, c'est que ensuite c'est fini. Ouais.
Bon, alors là, c'est quand même une ampleur autre, parce que le gars... Est-ce que le gars va être pris comme exemple? J'en suis pas sûr, quoi.
Bah là, clairement, moi, je le vois pas revenir. C'est fini, là. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui,
avec
non,
le
mais
contexte
clairement.
Actuel, c'est terminé, ce genre de truc. C'est-à-dire que...
Est-ce que c'est crédible que...
On offre ça dans 10, peut-être, mais c'est fini, maintenant.
Ouais.
Là, clairement, sa ligne de défense, ça va être genre être un sexualité. Alors que Bill Cosby, il avait nié, tu sais. Voilà. Voilà où ça nous amène, le cinéma. Bravo.
Et voilà.
Franchement, ça trustait... tous les sites de news de ciné, cette news-là, pendant toute la semaine, et je pense pendant quelques temps encore. À part ça, je vois pas d'autres news importantes à souligner. Il y a eu cette semaine 2-3 bandes annonces, genre de Justice League, etc., qui sont sorties, mais bon, rien d'incroyable. Quoi d'autre? Moi, sinon, c'est surtout une semaine de série avec la sortie de Mindhunter, qui, donc, la fameuse série dont on a parlé au dernier épisode avec David Fincher qui est impliqué et qui, finalement, du coup, maintenant, on le sait, maintenant que j'ai regardé quelques épisodes, il est impliqué dans la réalisation des deux premiers épisodes. D'accord? Peut-être dans d'autres. Pour l'instant, je sais pas, j'en ai vu 4. Il a réalisé.
Il passera sur fin de séance, hein, d'ailleurs, hein, David Fincher.
Ouais, bien sûr, c'est exprès pour ça. Mais ouais, série définitivement à regarder. C'est sur Netflix, allez-y. Les acteurs sont incroyables. C'est pas non seulement l'intrigue, mais c'est surtout les thèmes abordés concernant la criminalité. Sont assez inédits en fait. Jamais on parle de l'idéologie, j'allais dire des forces de l'ordre derrière la criminalité, et donc c'est vraiment pas mal du tout. Et t'as l'impression de regarder Zodiac mais en série, tout simplement.
C'est ça. Excellent. Alors moi du coup j'ai regardé le pilote seulement, et ça a cette classe en fait de certains films ou certaines séries où au bout de quelques minutes tu sais que ça va être bien, que
carrément.
Tu vas y être accro quoi.
Carrément.
C'est la photo, la mise en scène, ce sont des petits détails où tu vois direct que t'es face à quelque chose de sérieux, et tu te poses, ah ben ok, là vous avez toute mon attention.
Ouais, non,
tu
te relaxes trop dans ton canapé en fait, parce que tu sais que tu vas pas voir quelque chose de bancal en fait.
Non, et puis comme tu disais, c'est vraiment et puis t'as vraiment l'impression que l'angle va être différent quoi.
Oui,
t'as vraiment ça, c'est pas juste c'est pas un épisode de CSI dans les années 70.
Voilà, exactement, faut arrêter oui voilà. Ça va pas être Profiler Begins, tu vois. C'est vraiment le truc nouveau, etc. Donc c'est vraiment cool. Sinon, pour continuer dans la série, mais ça, on en parlera peut-être plus dans un fin de série exprès. Là, on est en train de terminer la grosse surprise de cette fin d'été qui était Mr. Mercedes. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc une adaptation de Stephen King qui vient d'être renouvelée pour une saison 2. Donc j'espère que le fait de savoir ça ne nous spoile pas le dernier épisode c'est qu'on n'a pas encore vu. Mais en tout cas, ça me paraît normal. C'est juste excellent. Les acteurs sont excellents.
C'est très bon.
Et également, on s'est mis à une nouvelle à une série pareille d'horreur qui a été renouvelée, dont la saison 2 a déjà commencé depuis 4 semaines. C'est Channel Zero. Je sais pas si t'en as entendu parler, Jean-Yves.
Moi, j'ai vu 2 épisodes et j'ai pas du tout accroché.
D'accord.
Perso. Donc j'ai pas continué.
D'accord. Alors que nous, on est totalement
rentré
dedans.
C'est vrai.
On se dit, c'est en fait, c'est
mode fantastique.
Ça,
film. C'est ça.
En série, mais qui fait peur. Pas comme le film, en fait. Donc c'est mieux.
C'est vrai que, si tu analyses, c'est une adaptation de ça au monde moderne. Et je trouve que c'est une très intelligente adaptation de ça, et ça passe sur la chaîne Sci-Fi. Voilà.
Faudrait peut-être que je m'y replonge, parce qu'effectivement, c'est peut-être que je l'ai peut-être jugé trop en avance. Des fois, tu sais, quand tu vois maintenant, il y a tellement d'offres que au pilote, je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé. Ça, pour moi, ça faisait trop réa-télé, tu sais, réa-télé américaine, genre ABC, tu vois.
Ah ouais.
Je sais pas comment.
Bizarre, parce que justement, je trouve pas trop en termes de.
Ouais, c'était pas trop.
De, ouais, réalisation, etc.
Peut-être
je trouve
sur
que
la
ça prenait
longueur,
vachement
que
de temps.
Je réessaye du coup.
Ouais, à voir.
On va essayer.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi en termes de choses.
T'avais pris un screener en fait, c'est pour ça.
Ouais, voilà. T'as pris un screener d'un gars qui a filmé au caméscope sa télé.
S'il y a encore des gens, parce qu'il y a encore des gens qui font des screeners, je sais pas qui sont ces gens.
Des Russes, probablement. Des Russes. Ok, bon, bah écoutez, on va pouvoir passer directement alors à Coexister, le film d'aujourd'hui, sorti donc le 11 octobre 2017, de et avec Brice Eboué, Audrey Lamy. Ramzi Bedia, Jonathan Cohen, etc. Alors, sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre ensemble, mais les religieux qu'il recrute sont loin d'être des saints. Petit clip.
Bonjour, Nicolas Lejeune, Demanche Musique.
Pourquoi Demanche Musique est au point mort depuis 2 ans?
Et qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux.
J'adore les glaces avec de boules.
Ça, c'est de la merde, ça peut cartonner.
Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur.
Et pourquoi on fait pas ça?
Quoi?
Un prêtre.
Très bien.
Un rabbin.
Mazal tov.
Et un imam.
J'ai une gueule d'imam, moi.
Réunis sur scène pour chanter ensemble.
1, 2, 3.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de Coexister, Ludo?
Ben moi j'ai bien rigolé, en fait, ça collait bien à mon humour, j'adore Fabrice Eboué, voilà, c'est blague sur la religion, sans réfléchir, à on s'en fout, je te froisse, rien à branler, je dis que c'est de la merde, c'est pas grave, et ça m'a fait rire, tout simplement.
Ce qui est pas mal pour une comédie. Hein.
C'est ça, c'est un petit peu le but, tu vois, au cinéma, tu rigoles, tu fais bon, ben en fait le film est bien, puisque il atteint son but, quoi.
Alors moi, je trouve que le film est un peu bancal sur sur les parties cinématographiques, quoi. En gros, c'est-à-dire sur l'introduction ou les transitions dans l'intrigue. C'est un peu fait rapidement. Il y a des scènes un peu bizarres. Il y a un montage qui est assez mal fait. Il y a des trucs que j'aurais totalement coupé parce qu'il y a des vannes en fait où c'est pas drôle. Et je pense que tu le vois, ça, que c'est pas drôle et qu'il faut couper la scène plus tôt, quoi. Ouais. Et
faire la longueur, en fait. Faire 1h30, donc.
Mais voilà. À ce moment-là, écris mieux, quoi. Trouve de meilleures choses à dire. Une espèce de sous-intrigue, comme on les voit toujours avec les enjeux romantiques, etc., qui est un peu parallèle à l'histoire principale, mais qui n'influe jamais vraiment sur l'histoire principale. Ça, c'est dommage. Après, oui, il y a des vannes qui font totalement mouche, et oui, tu te marres énormément, tu te marres beaucoup. Tu te marres beaucoup sur des trucs. Il y a des choses qui tombent à plat quand même. C'est l'un des premiers films depuis longtemps où, en gros, parfois je vois des tentatives de vannes. Tu vois, je sais qu'ils voulaient qu'on rigole à ça, mais la salle ne rigolait pas. C'est vraiment comme si c'était un spectacle humoristique, raté, du coup. Ouais. Mais voilà, après, de manière générale, je trouve que on n'est pas du tout dans quelque chose, par exemple, qui est totalement raté ou quelque chose à bras ouverts ou comment s'appelle l'autre, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est clairement raciste. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est vraiment sur juste la promesse de tout le monde va blaguer sur la religion de tout le monde et c'est tout. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire.
Ça, c'était pour donner un rôle à Alexandra Lamy, non ? Parce que c'est
quoi ? À Amel Chabi.
La meuf, la blonde, là, je vous souviens.
Et oui, c'est la sœur d'Alexandra Lamy.
Oui, voilà.
Alors, je sais plus. On va peut-être rentrer dans les détails juste après, mais. Jean-Yves, qu'est-ce que t'en as pensé de Coexister ?
Écoute, moi, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que je passe un plutôt bon moment, ouais. Parce que clairement, je rigole beaucoup pendant le film. J'aime énormément mon petit coup de cœur, c'est le personnage de Audrey Lamy, tu sais, en assistante parisienne de maison de disques, qui est clairement où il y a des scènes, notamment une scène au début où je suis pété de rire, quoi. Tu sais, c'est une scène où elle montre des clips à Fabrice Eboué, c'est trop marrant, quoi. Donc dans l'ensemble, plutôt cool, plutôt marrant. Moi, le film est déséquilibré dans la mesure où je trouve que la deuxième partie du film, qui est liée à son intrigue, je m'y intéresse plus du tout, quoi. Quand ils partent en tournée, enfin voilà, ça m'intéresse plus du tout, donc c'est beaucoup moins drôle. C'est plutôt sympa. Mais d'un autre côté, en fait, pour avoir vu Fabrice Eboué en spectacle, pour avoir vu ce qu'il est capable de faire et par rapport à l'annonce qu'il en avait faite, à savoir un truc de on va taper un petit peu dans la fourmière, machin, moi je trouve ça quand même super consensuel.
C'est très timide. À plein
d'égards, vraiment, on sent qu'il y a un espèce de blocage. Alors, est-ce que c'est pour en faire un film fédérateur commercialement où il y a plein de gens qui vont aller le voir? Un peu comme plein de gens iraient voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois? Pas en termes de résultats, mais d'attirer des gens pour aller voir ce film, quoi, pour en faire le truc le plus lisse possible. Parce qu'à l'arrivée, c'est drôle, mais c'est un peu lisse même, quoi.
C'est comme si tu voyais un spectacle de trois humoristes, vite fait, un musulman, un juif et un catholique.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils balancent deux, trois vannes, mais sympa. Tu vois le.
Voilà. Ouais. Mais c'est sympa. On est cool, tu vois. C'est. Donc, mais après, il y a des bonnes vannes, hein, ouais, franchement, le rythme est assez bon, notamment encore une fois dans la première partie du film.
Parce qu'il se passe la partie, oui. Il se passe des choses, il recrute, il fait un peu son Nick Fury, voilà. pour créer ses Avengers.
Ouais. Mais à l'arrivée, moi, j'en arrive à me dire que ça aurait très bien pu être aussi un très bon sketch du SNL de 20 minutes.
Voilà.
C'est-à-dire que si tu compresses tout en 20-25 minutes avec toutes les meilleures blagues du casting et tout, c'est ça qui est bien, quoi, dans le film. Après, voilà, donc je passe un. Après, c'était assez marrant dans la salle parce que tu vois, je suis allé voir ça, une salle à tiers, moitié pleine. Pas trop de consensus non plus sur des rires. C'est marrant, il y avait des gens qui rigolait que à des blagues contre certaines personnes. Enfin, c'était assez. Il y avait quelque chose d'un peu communautaire dans la réception des blagues aussi.
Oui, d'accord.
Donc c'était assez marrant, quoi.
Bah, du coup, c'est pas mal d'agencer ça dans un seul film. Du coup, comme ça, au moins, tu vas rigoler. Ouais, je suis d'accord avec la seconde partie qui est plus faible. Et en fait, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais en termes de production design, c'est cheap pour la tournée,
ah ouais,
parce que c'est le même endroit à chaque fois.
Ouais.
Même l'Olympia, c'est le même endroit, et je trouve que ça aurait mérité en fait d'aller tourner des fausses scènes dans 2-3 théâtres différents ou salles différentes. Spécialement d'ailleurs, demander, je sais pas, un après-midi ou un matin ou une nuit à l'Olympia de pouvoir tourner
ça
un truc,
l'Olympia
quoi.
Avec 3000 places.
Ouais, ouais, et ça le faisait pas du tout. Quoi. Et voilà, donc ouais, il y a de ça. Bon, en fait, je pense qu'on va, on n'est pas obligé de faire une section spoiler parce qu'on peut parler de d'à peu près tout. Mais mais je trouve que ouais, le truc avec Amel Chabi, donc qui joue sa femme qui se sépare, etc. Ben tu vois, à aucun moment ça vient influer dans ce qui se passe en fait. Toutes les dates de concert sont respectées, ouais, tous les trucs, tu vois, il y a pas vraiment d'attache à ça. Et le début. Ouais, problème de montage et d'agencement pour moi de toutes ces trucs de recrutement quand il fait des castings de rabbins, quand il va voir des gens. C'était pas fluide, tu vois. Alors que normalement, justement, les scènes de montage comme ça, c'est ce qu'il y a de plus drôle dans un film quand c'est plutôt bien réalisé. Et alors, c'est marrant d'avoir vu les faux clips, tu sais, genre le rappeur gay, etc. Mais j'aurais bien aimé en voir un peu plus et en voir des nouveaux parce que ça m'a beaucoup rappelé Fatal. Et Fatal, tu te souviens quand on voit les rapidement des clips dans les victoires de la musique. Tu te souviens ou pas?
Mais Fatal, c'est mieux.
Mais
quand
oui,
même.
Mais c'est ce que je dis. Et dans Fatal, c'est beaucoup mieux pour des trucs plus courts. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est dommage de pas avoir foutu le paquet pour vraiment se foutre du monde de la musique. Un peu comme dans Fatal, tu vois.
C'est marrant cette scène au début, comme je disais tout à l'heure, avec Audrey Lamy qui va montrer des extraits de trucs possibles à Eboué. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'elle connaît les chansons par cœur.
Elle
est trop drôle, quoi. à faire le blah,
blah.
Et je sais pas,
9, 2, 9, 3,
c'est vraiment marrant où le produit est vraiment intégré dans sa tête. Donc, tu sais, où il parle de sauce blanche et de pute en vocodeur. Devant des voitures
ouais,
et
ça.
Tout. Et
le décalage d'avoir une meuf qui pèse 15 kilos blonde et qui chante du rap gangsta.
Mais franchement, t'écoutes un peu le rap de mauvaise qualité français d'aujourd'hui. C'est un peu ça, hein. T'écoutes du Jul, franchement.
C'est ça, avec de l'autotune. Oublie pas l'autotune. En fait.
Tu vois, c'est. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et après, il y a. J'aime bien. Comment il s'appelle déjà le personnage qui joue le rabbin, du coup
Jonathan Cohen, qui joue Serge Le Mito.
Qui joue vraiment bien le. J'aime trop la partie au début. Ils vont le voir, le gars dépressif avec son spray de la mer morte. Avec les Magic Rabbins.
N'importe quoi.
Ah, ils ont dû trop.
Non, mais il y a, de bonnes petites idées, mais c'est vrai que je sais pas, ouais. C'est la première fois, il me semble, que Fabrice Eboué réalise tout seul un film. Je crois que c'est ça, hein. Parce qu'il avait co-réalisé, comment il s'appelle, Casse Départ, etc. Et tu sens qu'il y a besoin de faire 2-3 tutos en plus pour réaliser tout seul. Parce que même le crocodile du Botswanga, qui était pas génial, il l'a co-réalisé aussi. Et je pense que ouais, ça méritait. Mais tu vois, ça aurait vraiment permis de mieux nous délivrer les vannes si la en termes de cinéma
soft,
c'était mieux. Quoi.
Comparé à ses spectacles, c'est qu'il dit vraiment des trucs chauds parfois. Là, il a vraiment freiné un petit peu. J'ai la sensation.
Ouais. Mais et en fait, c'est dommage parce qu'il y a une très bonne scène, je trouve, quand ils sont dans la radio et qu'il y a une meuf catho qui appelle et qui dit c'est bien parce qu'on s'était tous ralliés, toutes les religions s'étaient ralliées contre les homosexuels. Et ça c'est trop drôle parce que c'est vraiment tu vois, quand t'es en stand-up, c'est une pensée intéressante en fait, tu vois. C'est genre comme d'habitude, c'est de dire bon, toutes les religions, par contre, on est d'accord pour dire que bon, les femmes et les homosexuels, tu vois, ils auraient pu continuer sur ça et faire des trucs assez drôles, mais ouais.
Par contre, Ramzy dans son rôle de rabbin, de imam chou la merde et je raconte n'importe quoi, Il a été très bon, je trouve.
Ça mais plus, je crois que c'est mon plus gros fou rire du film quand il quand on lui demande quel est votre point de rapprochement préféré par rapport à la religion juive et qui sort que c'est Rabbi Jacob. Et en fait, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais s'il le joue, il joue trop bien le gars qui a un fou rire. En fait.
Je pense qu'il parce commence en fait... par le jouer, et je crois ouais. qu'après c'est vrai.
Ouais. Parce que, en fait, c'est rare de voir des gens aussi bien faire un fou rire dans un film, quoi. Oui. Parce qu'en fait, tu sens qu'il y a un malaise, parce qu'en gros, c'est trop déplacé, quoi, franchement. Il se met à raconter des blagues du film mal racontées. Oui, c'est avec...
Ludo, il était plié en deux, comme quoi le rire de Ramsey était communicatif.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ben c'est comme quand il dit « On va le soigner, madame. On va le soigner, votre petit-fils.
» Votre petit-fils homosexuel. Ouais.
C'est très drôle. Après c'est, là où c'est assez intéressant, c'est qu'il joue aussi sur les registres d'humour ou le politiquement correct, où notamment, des fois, il y a des blagues où il y a eu un petit peu un effet miroir entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans la salle, où des fois, quand il sort des blagues qui sont axées sur des... le fait de l'amalgame musulman terroriste, et ben du coup ça met des froids, tu sais, à un moment il y a une blague qui est trop bien, c'est, ils sont chez Drucker et il y a le rabbin qui dit ouais on construit une synagogue, ouais, et puis à la fin il y a Ramzi qui dit on va construire une mosquée, et là tout le monde fait ouais, et t'as personne qui applaudit. Et effectivement, et en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que sur ce genre de blague là, ben dans la salle de ciné, ben ça met un petit froid aussi. Donc est-ce qu'il a, ça c'est un des avantages du film, ouais. C'est que il a réussi à capter un truc de d'époque où il y a des blagues qui mettent des froids.
Oui,
quoi.
Oui.
Il y a aussi un énorme froid quand il y a le, et ça c'est marrant parce que du coup il essaie de faire la blague du curé qui en fait ne sait jamais quand sortir des blagues. Oui. Et clairement à un moment il fait des blagues trop déplacées, du style il commence à dire oui il parle d'une étoile tant qu'on te la colle pas sur la poitrine, et là t'as un gros blanc. Qui après est retourné par le gars qui dit mais non t'as fait une bonne vanne, et pareil à ce moment-là dans la salle de cinéma t'as eu un gros blanc aussi.
Oui.
Donc ça j'ai trouvé ça plutôt réussi.
Ouais.
D'arriver à cerner qu'il y a des blagues qui mettent encore mal à l'aise, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est...
Mais c'est pas mal parce que ça, du coup ça, c'est un commentaire sur le fait que
voilà.
Il y a encore un malaise sur certains propos, mais qu'on oui. peut quand même en rire puisque tu en fais un film, tu vois.
Nous on a ri dans la salle, hein. À ce oui. moment-là nous on a ri, mais
Claire. Je reste fan des bouées et je pense que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après, quoi. Prochain film, tout simplement, parce que je pense que ça ne peut que s'améliorer,
sûr,
en fait, à ce niveau-là.
Dans les points négatifs, j'ai trouvé complètement nul le personnage de Seigné qui fait la chef
ouais.
corporate,
ouais.
là, tu sais qui
mais
vient...
Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais l'introduction, c'est-à-dire tout ce qui est mise en route de l'intrigue, je trouve ça très mal fait.
Ouais.
L'espèce de meuf Vivendi qui possède plein d'entreprises, etc.
Ouais, voilà.
Comment lui va au boulot, etc. Il y avait un truc mieux à faire, je pense, pour se présenter cet objectif.
Comme si c'était pour expliquer aux spectateurs un peu cons, tu sais, que les méchants actionnaires,
oui.
quoi, tu sais, c'était un peu lourdingue,
mais en
j'ai
fait,
trouvé, quoi. Oui,
ça aurait pu être ouais. effectivement mieux mis en scène si, au contraire, c'était quelqu'un qui venait du grand groupe
ouais.
après le fait que Mathilde Seigné soit devenue PDG pour leur dire non, mais il faut que vous ayez ces objectifs-là, etc., ouais. tu vois. Et une réponse comme il l'avait donné, mais en plus intime, pas forcément. Enfin, ça veut rien dire, le gars il arrive en retard, on lui donne un micro, tu vois, s'il y a des trucs un peu mal faits, juste pour faire avancer le truc rapidement, et je trouve que. Ça méritait un petit peu de se poser des questions sur comment mettre en scène tout ça. Quoi.
Et parce que, mais c'est dommage en même temps parce que je suis complètement d'accord, c'est pas foufou au niveau de la mise en scène, mais malgré tout, des fois il y a des petits trucs très intelligents, et notamment au début cette scène où il arrive à la réunion des actionnaires, ben il y a un truc vraiment bien de mise en scène où il arrive en retard et il passe un rideau. Et il y a quelqu'un qui est parti parce qu'il a posé une question honteuse, et du coup il se fait passer le micro et ça devient une scène de stand-up.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Au tout début, où il se retrouve avec un micro, avec un spot sur lui et un rideau derrière, donc il a transformé une réunion en salle de spectacle. C'est, tu vois, il y a des petits trucs quand même.
Peut-être que c'est
malin,
pour ça absolument
quoi.
qu'il voulait ce morceau-là, mais ouais. Bon après.
Peut-être.
Est-ce que ça sert bien le film ? C'est ça le problème.
C'est vrai que ça tombe comme ça. On ne connaît pas sa situation, on ne connaît pas son boulot, on ne sait pas qu'il est dans une super
ouais.
grosse entreprise. Genre,
il faut nous montrer son travail aussi de tous les jours,
ouais.
tu vois, avec des artistes qui suivent normalement, etc.
Il y a des trucs qui ne marchent pas pour dire que ça baisse.
Exactement.
Ouais.
Bon, ça serait quoi le top 3 des top 3-4 des meilleures blagues
du coup, on spoil direct. Alors n'écoutez pas, on va faire le top 3 des vannes. je pense que clairement le morceau qui était génial, c'est le rabbin qui prend de la coke dans son truc nasal. C'est énorme, c'est ultra bien joué de la part de Jonathan Cohen.
Ah ouais.
Et tu sens, tu vois dans ses yeux et dans ses petites mimiques faciales qu'il a pris de la coke et tu te
marres. Il est excité, il court partout, il fait n'importe quoi.
Excellent.
Je crois que celle qui m'a fait le plus rire, c'est quand le rabbin embrasse une meuf et fait « T'es juive ?»« Non, bah, mais ça y est, maintenant tu l'es. » Et celle-là, elle m'a fait rire parce que c'est tellement con, en fait, que...
Ah ouais. Alors, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de blagues, au final, qui sont dans la bande-annonce, mais elles te font rire parce qu'il y a toujours un truc après dans le film. C'est-à-dire que le truc de « Ah, on nous a pourré l'ambiance, qui c'est qui va remettre l'ambiance ?» C'est tonton Samy, c'est... En fait, ça reste quand même ultra drôle dans le film parce que juste après, il embrasse la meuf, etc.
Un des plus gros fous rires, donc il y a eu, moi je crois que un des plus gros fous rires, c'est quand ils sont dans un strip club et il y a le curé, il a la tête entre deux paires de fesses et c'est genre trop marrant parce que lui il est là, il continue dans sa petite posture très cul-pincée à dire que oui, Jésus a résisté 40 jours et plus il parle, plus il se prend des coups de fesses. Je sais pas, il y a un truc très marrant, il finit par s'énerver parce que voilà, il se met à crier, c'est assez marrant. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait pareil les moments avec Audrey Lamy que je trouve marrant.
Ouais, il y a toujours des petits moments, il se réserve toujours des petites blagues à la Eboué aussi, Fabrice Eboué, et ça passe
bisou. C'est un bisou.
Avec il va à une soirée déguisée, il me croise avec une meuf en burqa qui dit tu vas à la soirée déguisée, je suis pas déguisé connard, ça je trouve ça marrant.
Bon, le rôle du prêtre est vraiment un peu de fait, il est un peu mis en arrière en termes de comédie.
Ouais, c'est vrai.
Ramsey fait le show et Jonathan Cohen fait le show aussi.
Il est mis en arrière, oui, mais en même temps.
De manière comique.
Sur certaines blagues, c'est de manière comique, mais les blagues justement sur lui sont celles qui, à mon avis, vont le plus loin, quoi, parce qu'il y a quand même tout un truc. Ils remettent vachement le couvert avec les prêtres et les enfants. Il y a des blagues très drôles d'ailleurs. On partage notre repas avec tout le monde et il y a Ramzy qui dit oui, surtout avec les enfants. Il y a tout ce truc avec tout le moment de tension avec il arrive dans la chambre d'hôtel de Audrey Luami, il lui offre une grosse lollipop, tu vois. Enfin, c'est vrai. C'est assez mais en fait il le joue à la perfection.
Oui, après il le joue bien, mais c'est vrai que au final c'est aussi peut-être un peu le normal, dans le sens où ceux qui peuvent pas trop se permettre d'être actifs dans les blagues, c'est souvent les blancs cathos, quoi. Tu vois ce que je veux dire, parce que les autres, étant donné que tu fais partie d'une minorité, tu peux plus te décomplexer à balancer sur tout le monde. Combien de miam vous donneriez à coexister?
3,5, parce que j'aimais rigoler. C'était le but.
D'accord. Jean-Yves?
Ouais, pareil, ça serait... Ouais, moi je mettrais 3.
Ouais, pareil, 3.
3, parce que ça, comme dit Ludo, c'est... Tu peux être... Et c'est le côté positif des films consensuels aussi, c'est que tu peux sortir ce film avec à peu près tout le monde et ça marche, quoi, en fait. Tu peux être chez toi et dire on mate un film ce soir, on mate ça, tu peux être sûr que ça va être
marcher.
Après,
c'est consensuel avec un poil de relief quand même. C'est-à-dire par rapport vraiment aux films comiques français très basiques qui parlent de rien de spécial, tu vois, genre papa et maman divorcés ou des conneries comme ça, tu vois. Là, au moins, t'as un peu plus de vannes.
Un peu plus osées, on va dire.
Ouais, voilà. Voilà. Donc 3 pour moi aussi, donc voilà, ça lui fait une moyenne de 3. Est-ce qu'on peut passer au film en vrac? Est-ce que vous avez vu des films dernièrement dont vous voulez parler, que ce soit au cinéma ou ailleurs?
Écoute, moi, en sortie de la semaine, je suis allé voir Kingsman 2 parce que j'avais bien aimé le premier. Alors peut-être de façon peu objective, parce que dès qu'il y a des accents anglais, british, moi, je trouve ça bien, c'est forcément. Ouais. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à vraiment un truc vraiment pas bien. Un truc vraiment de ressortir une recette et l'aplatir complètement. Et en fait, c'était plutôt, en termes de divertissement, plutôt plaisant. Il y a un casting vraiment sympa. Tu vois tu vois des Jeff Bridges, tu vois des Channing Tatum, il y a le gars qui, je me rappelle jamais son nom, mais le gars qui est dans Narcos, et dans Oberyn, ouais, exactement. Julianne Moore qui fait la méchante, qui est un petit peu une espèce de housewife, un petit peu chef d'un cartel de drogue. Donc c'est franchement, je le conseillerais vraiment vivement à ceux qui ont passé un bon moment devant le premier, parce que c'est la même recette. C'est la même recette avec quelques éléments qui changent. Le seul point négatif, c'est que ça serait peut-être un peu trop similaire dans le scénario, puisqu'on va être un petit peu trop dans ce truc de, il y a une menace mondiale avec et dans le premier où c'était un gars qui contrôle le monde avec des cartes puces, des cartes SIM chez tout le monde. Là, c'est Julianne Moore en fait qui contrôle toute la drogue, qui est devenue une espèce de multinationale unique, où ils ont mis, elle a mis un espèce de virus dans la drogue. Donc du coup, tous les consommateurs de drogue sont touchés. Donc du coup, pareil, il va falloir trouver l'antidote. Donc ça a un côté un petit peu James Bond kitsch. Mais après, les scènes d'action sont trop bien. Il y a un peu trop de slow-mo. Donc c'est pour ça que j'assimilerais peut-être ce film à, tu sais, le côté pizza 4 fromages, quoi. C'est-à-dire que tu manges ta, tu le consommes un peu comme une grosse pizza et t'as un petit peu mal au ventre avant la fin du film, quoi. Parce que ça peut être un peu lourdingue sur certaines scènes, mais honnêtement.
C'est un film avec trop de gluten, quoi, en fait.
Un film avec trop de gluten, ouais. Un film relativement sympa.
D'accord. J'irais
peut-être
que t'as
vite oublié, mais qui se consomme très tranquillement et.
Combien de miam tu donnerais à ce film et combien de miam tu donnais à Kingsman 1 pour avoir une petite tu vois, un petit comparatif.
C'est difficile parce que moi je suis très très enthousiaste comme ça à froid, enfin en sortant direct. Donc Kingsman 1 au moment de la sortie, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'aurais mis entre genre un bon 3,5, quoi, tu vois. Et là, je mettrais un bon 3.
D'accord.
Tu vois, un bon 3. Mais pareil, tu vois, c'est là où ça va ressembler quand tu. La notation de genre coexister, c'est que c'est un film que tu sors de ta poche en soirée, tu sais. Genre,
vous l'avez pas consensus, vu et ça passe.
Voilà. Okay. Ça va faire consensus sur plein de gens, quoi. Et c'est pour ça, c'est efficace, quoi. Sur les petites soirées Blu-ray, c'est cool, quoi.
Et le second film, tu disais, je sais plus ce que tu avais dit.
Écoute, le second film, c'est un film que j'avais raté au ciné, que j'ai vu en VOD, qui s'appelle ça s'appelle La Confession de Nicolas Boukrieff, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait Le Convoyeur avec Dupontel, et qui avait fait ce fameux Made in France, hein, le film maudit sur les attentats, sur des jeunes radicalisés qui préparent un attentat, qui était très bien aussi. Et là, l'histoire, c'est un sujet qui est pas mal. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, dans un petit village. Et ça raconte la relation, en fait, entre une jeune fille ultra rebelle qui, comme beaucoup de jeunes filles, est très. Elle supporte pas le fait que les Allemands soient dans le visage. Donc, elle va, tu sais, il y a toujours le camp des filles un petit peu collabo qui vont fricoter avec les Allemands. Et puis, elle est plutôt dans le camp de vous êtes horrible de faire ça. Et elle rejette un petit peu le truc. Et elle va se lier d'amitié avec le prêtre, le nouveau prêtre, qui est joué par Romain Duris. Et il va y avoir une espèce de jeu où elle va essayer de montrer au prêtre que lui ne peut pas la convertir à sa religion catholique. Et le prêtre va se laisser prendre au jeu et va s'installer une petite relation comme ça de « est-ce que tu arrives à me convertir ou pas ?» Et c'était assez intéressant de le voir sur cette religion-là où c'est jamais abordé, en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Les acteurs jouent vachement bien et c'est vendu un petit peu comme un truc d'une histoire d'amour impossible, mais il y a vraiment une espèce de jeu de persuasion qui est vraiment très bien, donc je le conseillerais vraiment vivement. D'accord. Et ça mérite entre 3,5 et 4, je pense, sur 5.
D'accord.
Okay. Voilà.
Et Ludo, du coup, on en revient à ce que tu dis.
Moi, j'ai vu Dans un recoin de ce monde, c'est un animé japonais sur la vie des femmes, entre guillemets, au Japon, avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui habite près d'Hiroshima et on voit son développement, les trucs après l'école, les alertes à la bombe et tout ça, comment il y a un mariage arrangé qui fait qu'elle va se déplacer et tout ça. Donc, c'est un film très bien au niveau, culturel pour voir, vraiment apprendre comment ça se passait ou du moins avoir une idée de comment ça se passait. Et aussi, il y a l'impact des bombes atomiques à Hiroshima qui se ressent sur toute l'histoire. En fait, c'est pas comme le tombeau de Lucioles, parce que c'est pas un truc qui va vraiment te tordre les boyaux ou un truc comme ça, mais il y a une mélancolie, on sent un truc. Il y a un truc dans ce film qui est vraiment très intéressant, en fait. Donc, je sais pas comment le décrire, hein, parce que c'est un peu à part. Après, graphiquement, il était très sympa. C'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus, mais ça donne un caractère particulier. Donc, c'est intéressant à voir, ouais.
D'accord.
Et 3.
Est-ce que Ludo, t'as vu, on n'arrête pas de me parler de ce manga-là qui s'appelle Your Name.
Ah, j'adore. C'est monstrueux.
On en a pas parlé?
Non, on en a pas parlé. Il est vraiment, vraiment excellent. Vas-y, regarde-le, réfléchis même pas.
Je vais regarder ça, ouais, parce que c'est vrai que tout le monde me dit de regarder Your Name, donc je voulais avoir ton avis dessus.
Non, c'est très, très bon. Je l'ai montré à Pêche, PH et Laure. Ils ont adoré aussi, c'est passé crème. Ça passe très, très bien.
Donc ça veut dire qu'on a fini cet épisode de fin de séance. Bravo.
C'est pas mal.
Bravo à tous. Et on se rejoint la semaine prochaine. Je crois qu'on va parler de The Square. Non.
The Square, ouais.
Il me semble qu'il sort le 18. Donc,
peut-être pas le d'or quand même. Hein.
Ça ou My Little Pony. Donc c'est comme.
Donc, moi voilà. je suis en retard, donc je vais quand même essayer d'aller voir Detroit parce
pareil,
que ça
pareil,
a quand
pareil.
Même The Movie, donc ça pourrait être cool de le rajouter. Mais The Square, franchement, très hâte de voir la fameuse Palme d'or qui fait beaucoup parler.
Ok, parfait. Bon, ben bisous à tous du coup.
Bisous, bisous.
Et à la semaine prochaine.
See you next week.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.